Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de Cessia. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sujet passionnant et essentiel, l'accessibilité.
VoiceOver activé.
Si vous aimez plonger dans des discussions enrichissantes et explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Laissez-nous vos impressions en commentaire et embarquez avec nous pour cette aventure captivante.
Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un appareil qui fait pas mal parler de lui dans le monde de l'audio. C'est l'enregistreur Zoom H4 Essentiel. Alors, pour en discuter, on se base principalement sur les infos de la page produit de Cessia. C'est un fournisseur qui est spécialisé en technologie adaptée, donc ça va nous donner un angle assez intéressant. L'objectif, c'est vraiment de creuser ce que cet enregistreur a dans le ventre. On va regarder ses capacités techniques, bien sûr, voir ce qu'il rend pro, mais aussi, et c'est un point important pour notre source, son accessibilité, pour les personnes qui ont un handicap visuel. On va regarder les caractéristiques, mais surtout essayer de comprendre ce que ça apporte vraiment concrètement au créateur. Allez, on décortique ça. Bon, d'entrée de jeu, le H4 Essentiel est présenté comme un outil pour les créateurs exigeants. Musiciens, podcasteurs, vidéastes. Comment 32 bits à virgule flottante. Ça peut paraître un peu technique, hein, mais c'est vendu comme un vrai plus.
Ah oui, tout à fait. Cette techno 32 bits flottant, c'est vraiment le cœur de la promesse qualité. Ce qui est assez bluffant, en fait, c'est sa capacité à gérer une plage dynamique immense. Imaginez, pouvoir enregistrer un truc hyper faible, genre une feuille qui tombe, et juste après, le bruit d'un marteau-piqueur, dans le même fichier, sans que ça sature, sans distorsion, fini le clipping, quoi.
Donc concrètement, ça veut dire moins de prise de tête avec les réglages avant d'enregistrer, plus besoin d'avoir peur que ça sature ou que le son soit trop bas.
C'est exactement l'idée. Le besoin de régler le gain d'entrée au millipoil près, bah, il disparaît quasiment. C'est l'appareil qui s'adapte au son, et pas l'inverse, enfin, dans une large mesure. Ça enlève une sacrée charge mentale, hein. Surtout si on enregistre seul ou dans des situations où le niveau sonore change tout le temps, de manière imprévisible. Un reportage, un concert...
Oui, je vois. Et cette simplicité, du coup, ça rend aussi la parole plus accessible, forcément. Moins de manips compliquées pour avoir un bon son. Le vrai plus, c'est la sérénité. On se concentre sur ce qu'on enregistre, pas sur les vues mètres. Cette notion de sérénité, c'est intéressant. Si on regarde l'appareil lui-même, le matériel, comment il exploite cette technologie? La source parle de 4 pistes de micro intégrés.
Oui, alors il a 4 pistes d'enregistrement. Ça permet d'enregistrer plusieurs choses en même temps. Les micros intégrés, c'est une configuration XY stéréo, assez classique chez Zoom. Mais surtout, ils sont capables d'encaisser une pression acoustique très forte, jusqu'à 130 décibels SPL.
130 décibels, c'est énorme.
Oui, la source compare ça à un concert de rock, pour donner une idée. Ça veut dire qu'on peut enregistrer des sources très très puissantes sans saturer les micros de l'appareil.
Et en plus des micros intégrés, il y a des entrées pour brancher d'autres équipements. C'est souvent ça qui fait la différence pour un usage pro.
Tout à fait. En plus de ces micros XY, le H4 Essentiel a 2 entrées combo XLR-TRS. Ça, c'est les prix standards dans le monde pro. Pour brancher des micros de studio, des instruments... une sortie de table de mixage. La description dit que les préamplis sont ultra transparents. Bon, ça veut dire qu'ils sont censés amplifier le signal sans ajouter de couleur ou de bruit. Et ils fournissent l'alimentation Phantom plus 48V.
Indispensable pour certains micros.
Exactement, pour les micros statiques pro notamment.
Donc avec 4 pistes et ses entrées XLR, on peut imaginer pas mal de scénarios d'utilisation, non ?
Oui, carrément. La combinaison micros intégrés plus les 2 entrées XLR-TRS, ça ouvre plein de portes. Un musicien, par exemple, il peut enregistrer sa voix avec un bon micro externe sur une piste, sa guitare branchée direct sur l'autre entrée XLR, et en même temps, capter l'ambiance de la pièce avec les micros XY sur les 2 autres pistes.
Pas mal. Et pour un podcast ?
Pour un podcasteur, ça permet d'utiliser 2 micros externes de qualité pour une interview et pourquoi pas ajouter une source d'ambiance ou lancer un jingle via une autre entrée si besoin. Cette flexibilité d'entrée, avec la qualité annoncée des préamplis, ça vise clairement ceux qui ont des besoins un peu plus complexes que la simple prise de son. Musiciens, vidéastes qui soignent leur audio, podcasteurs à plusieurs.
Et pour gérer tout ça, il y a des outils sur l'appareil même ou il faut tout faire après, sur l'ordinateur ?
L'un, il y a un mixeur intégré, ça permet de faire des petits réglages de niveau, de balance, directement sur l'enregistreur. Il affiche aussi la forme d'onde en temps réel sur son écran couleur.
Ah oui, c'est pratique ça. pour voir ce qui se passe.
Oui, ça donne une confirmation visuelle de l'enregistrement. Et la source mentionne aussi une option qui a l'air d'élargir encore les possibilités, un module Bluetooth, le BTA1. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça ouvrirait la porte au contrôle à distance, mais aussi à la synchro timecode. Le timecode, c'est plutôt rare sur ce genre de matériel, non ?
Effectivement. Le timecode via Bluetooth avec ce module BTA1 qui est optionnel, attention, c'est une fonction assez pointue pour cette gamme de prix. Déjà, le contrôle à distance via une appli smartphone, iOS, sûrement Android aussi, c'est très pratique.
Oui, j'imagine, si l'enregistreur est sur une perche ou loin, voire lancé, arrêter l'enregistrement, vérifier les niveaux à distance, c'est un vrai confort.
Mais revenons sur le timecode. Pourquoi c'est si important pour certains ?
Alors, pour les vidéastes, c'est une fonction qui peut faire gagner un temps précieux. Le timecode, c'est un signal horaire très précis qui est enregistré avec l'audio. Si la caméra ou les caméras en multicam enregistrent aussi ce même timecode, eh bien le logiciel de montage vidéo peut synchroniser automatiquement le son du H4 Essential avec les images, à la frame près.
Ah oui, d'accord. Sans ça, il faut le faire à la main.
Souvent, oui. En se basant sur un clap ou sur la forme d'onde, ça peut être long et fastidieux et moins précis, surtout sur des enregistrements longs. Donc oui, le timecode, c'est un vrai marqueur pro pour la synchro audio-vidéo. Ça a l'air de régler un vrai souci pour les vidéastes, en effet. Mais en parlant de régler des soucis, la source, Cessia, insiste beaucoup sur un autre point, l'accessibilité. Apparemment, le H4 Essential intègre une navigation audio complète. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est sans doute l'une des caractéristiques les plus marquantes de cette gamme essentielle. L'appareil a une navigation vocale intégrée. On peut l'entendre via la sortie casque ou le petit haut-parleur de l'appareil. Concrètement, ça veut dire qu'une personne aveugle ou malvoyante peut utiliser l'enregistreur, le configurer de A à Z en toute autonomie.
L'appareil dit à voix haute les options des menus, les réglages choisis, il confirme les actions, enregistrement lancé, stoppé, etc.
D'accord, donc c'est pas une application à côté ou un logiciel spécial, c'est vraiment dans l'appareil.
C'est exactement ce que la source souligne. C'est une fonction native, et ça, c'est fondamental. Ça garantit l'autonomie de l'utilisateur sans dépendre d'un autre appareil pour accéder aux fonctions de base. Si on prend un peu de recul, c'est un bel exemple d'accessibilité pensée dès la conception. C'est pas une rustine ajoutée après coup, c'est vraiment au cœur de l'interface.
Ça correspond parfaitement à la mission de Cessia d'ailleurs, favoriser l'autonomie par la technologie. Rendre un outil de création aussi avancé, nativement accessible, c'est quand même fort.
La source mentionne aussi l'écran couleur, haute lisibilité, l'interface en français et même des commandes physiques silencieuses. Ça, c'est un détail, mais c'est important pour ne pas enregistrer le clic des boutons.
Cette accessibilité native, c'est donc un point vraiment différenciant. Et pour connecter l'appareil au reste du monde, ou juste pour le faire fonctionner, niveau connectique et alimentation, qu'est-ce qu'on a ?
Alors, niveau connectique, c'est assez fourni. On a parlé des deux entrées XLR-TRS et des micros XY. Il y a aussi une entrée micro-ligne supplémentaire sur une prise mini-jack 3,5 mm. Et, point intéressant sur cette entrée mini-jack, elle supporte l'alimentation plug-in power, le PIP. C'est utile pour pas mal de micro-cravates courants qui ont besoin d'un petit peu de jus pour fonctionner.
D'accord. Et en sortie ?
En sortie, on a une prise casque-ligne, aussi en mini-jack 3,5 mm, pour écouter au casque évidemment, mais on peut aussi s'en servir pour envoyer le son vers l'entrée micro d'une caméra, par exemple, pour avoir un meilleur son témoin direct sur la vidéo.
Et le port USB-C, il a l'air de faire pas mal de choses d'après la description.
Ah oui, le port USB-C, c'est un peu le couteau suisse ici. Déjà, il permet d'utiliser le H4 Essential comme interface audio pour un ordi Mac, PC ou même un appareil iOS. Il offre 4 entrées.
Lesquelles ?
Les deux XLR-ETRS et les deux canaux du micro XY ou de l'entrée mini-jack, ça dépend de la configuration. Et 2 sorties vers l'ordi, donc très pratique pour enregistrer direct dans un logiciel, faire du streaming ou même une visio avec un super son. Ensuite, et ça c'est une sécurité importante, ce port USB permet d'enregistrer en même temps sur la carte SD interne, qui peut aller jusqu'à 1 Teraoctet, c'est énorme, et via USB vers l'ordinateur.
Ah oui, une sauvegarde en temps réel en quelque sorte.
Exactement. Si une carte SD lâche, on a la copie sur l'ordi. Et enfin, le port USB-C sert aussi pour l'alimentation.
Justement, l'alimentation, c'est pile ou secteur ?
Les deux sont possibles. Il fonctionne avec 4 piles AA, non incluses par contre. L'autonomie annoncée, c'est entre 10 et 20 heures, ça dépend de l'usage, hein. Type de micro, alimentation fantôme activée ou pas. Sinon, on peut l'alimenter via l'USB-C, soit avec un adaptateur secteur, soit avec une batterie externe, une power bank, soit direct depuis l'ordi s'il est branché comme interface. C'est assez flexible, que ce soit sur le terrain ou en studio. Par contre, la source soulève un point important. Certains trucs ne sont pas fournis de base. Oui, il faut faire attention. Ni le câble USB-C, ni l'adaptateur secteur USB ne sont dans la batte du H4 Essential. Bon, c'est de plus en plus courant, mais il faut le savoir et le prévoir à l'achat si on n'est pas déjà équipé. Zoom propose un pack d'accessoires à part, le APH4. Dedans, il y a l'adaptateur secteur, un câble USB et aussi une bonnette anti-vent poilu, très utile dehors, et une housse.
D'accord. La source compare aussi rapidement le H4 Essential aux autres modèles de la gamme, les H1 et H2 Essential. Qu'est-ce qui le distingue vraiment ?
Oui, le petit comparatif montre bien que le H4 Essential est le plus costaud de la série Essential. Ses avantages clés par rapport au H1 et H2, c'est premièrement les 4 pistes d'enregistrement, contre seulement 2 pour les autres.
Okay.
Deuxièmement, il encaisse un niveau de pression sonore max plus élevé, 130 dB SPL contre 120. Ça donne plus de marge pour les sons très forts.
Troisièmement, la présence des deux entrées Pro XLR-TRS. Ça, c'est unique au H4 dans cette gamme. Les autres ont juste le mini jack.
Ça, c'est pas dispo sur les H1 et H2.
Mais ils ont quand même des points communs importants, ces trois modèles. Ah oui, et c'est ça la force de cette gamme Essential. Les trois, H1, H2 et H4, ils bénéficient tous de l'enregistrement 32 bits flottant et, point essentiel, de la navigation audio intégrée pour l'accessibilité.
Donc, le choix entre les modèles, ça dépend vraiment du nombre de pistes dont on a besoin, si on a besoin des entrées XLR Pro et si les fonctions avancées comme le timecode sont utiles. Le H4 Essential, c'est clairement celui qui vise les utilisateurs avec les besoins les plus complexes, mais il partage la même base techno et la même accessibilité que ses petits frères.
Ok, donc si on devait résumer les points forts de ce Zoom H4 Essential, ce serait quoi ?
Je dirais qu'il y a trois trucs principaux qui ressortent.
La qualité et la simplicité du son grâce aux 32 bits flottants. Fini la peur de saturer. Prise de son simplifiée.
La polyvalence. Avec ces 4 pistes, ces bons micros intégrés, les entrées XLR-TRS, la fonction interface audio USB, les options d'Alim, il sait faire beaucoup de choses.
Et le troisième point ?
Et trois, et c'est peut-être le plus marquant, l'accessibilité native grâce à la navigation audio. Ça en fait un outil puissant que des créateurs aveugles ou malvoyants peuvent utiliser seuls, sans bidouillage.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ?
Ça signifie qu'on a là un appareil qui essaye et qui semble réussir à marier des exigences techniques assez pointues, professionnelles même, avec une accessibilité universelle pensée dès le départ. C'est pas juste un enregistreur pro sur lequel on a greffé une option vocale, quoi. L'accessibilité, ça fait partie de son ADN, au même titre que la qualité du son ou la connectique. Et ça, potentiellement, ça ouvre les portes de la création audio et vidéo de qualité à beaucoup plus de monde, y compris des pros ou des amateurs éclairés en situation de handicap visuel, qui étaient peut-être limités à voir par le manque d'outils adaptés à ce niveau.
Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, peut-être pour conclure. Si des outils techniques aussi spécifiques, aussi exigeants que celui-là, peuvent intégrer nativement une accessibilité aussi bien pensée, comment est-ce que cette approche pourrait influencer, voire transformer la façon dont on conçoit la technologie dans d'autres domaines ? Est-ce qu'on peut imaginer un futur où l'accessibilité ne serait plus une niche, une contrainte, un truc qu'on ajoute à la fin et qui coûte cher, mais plutôt un standard de qualité, d'innovation, qui profite à tout le monde ? C'est une perspective intéressante sur laquelle réfléchir.
Merci infiniment à tous nos abonnés d'avoir écouté le podcast de Cessia, le podcast de l'accessibilité. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et avons hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. Vos idées et suggestions nous inspirent, alors n'hésitez pas à nous les partager. À très bientôt et prenez soin de vous.